Bienvenue sur Boost ta résilience, le podcast qui donne du peps à ta vie, du fun à tes difficultés, libère ta parole, répare tes blessures et transforme tes journées. Mon nom est Sabine Girard, je suis coach en évolution de vie et résilience. J'accompagne les traumatismes de vie, le cancer et les violences sexuelles. En 2016, le cancer du sein a été le premier pas vers ma nouvelle vie. Dans mon podcast, j'interviewe des personnes qui ont traversé des épreuves, qui ont envie de partager leur histoire, d'apporter leur soutien à ceux et celles qui sont au cœur de la tempête. Je te donne des astuces pour une vie plus légère, pétillante et authentique. Je te transmets mes recherches et mon expérience pour rebondir face aux épreuves, transformer ton quotidien, booster ton énergie et devenir une personne épanouie et vivante. Bonjour Régine Thiel. Alors, ça me fait vraiment plaisir d'échanger avec vous aujourd'hui. Je vous ai rencontré au château de Courcelles à Montigny-lès-Metz le 8 octobre. C'était l'inauguration de votre exposition qui s'appelle Rose et qui a été installée dans le cadre du cancer du sein d'Octobre Rose. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur la personne que vous êtes, Régine ?
Bonjour Sabine. Je vais me présenter avec grand plaisir. Et d'abord, merci de m'inviter sur votre podcast. Alors, je m'appelle Régine, j'ai 48 ans. Je vis et je travaille près de Reims depuis 20 ans. J'ai grandi en Moselle, donc près de chez vous, à Metz. Alors, si je dois me présenter, me raconter un peu en quelques mots, je ne peux pas ne pas parler de ma passion pour l'art, puisqu'elle a guidé en fait toute ma vie. On va dire, tous mes grands choix de vie. Ma passion pour l'art a toujours été présente, et si bien que, alors lorsque j'étais au collège et qu'il a fallu à un moment donné s'orienter, le choix était vite fait. Moi, je voulais faire un métier dans lequel je serais en contact permanent avec l'art. C'était ça et rien d'autre. Donc, j'ai fait une filière à Troyes à l'époque, avec option art plastique et philosophie. Je suis partie ensuite à la fac d'art plastique à Strasbourg. J'ai fait une maîtrise. Je me suis dirigée vers l'enseignement. Donc, j'ai passé le CAPES plusieurs fois. Je l'ai obtenu. Je l'ai eu en 99. Et depuis, j'enseigne les arts plastiques en collège. Et c'est un métier dans lequel je m'épanouis parfaitement. En parallèle, j'ai également poursuivi une pratique artistique, donc celle dont vous parliez il y a 2 minutes.
Oui.
Sinon, j'ajouterais que voilà, j'ai une petite fille de 11 ans, j'ai une vie familiale amoureuse plutôt épanouie et aujourd'hui assez tranquille. Voilà pour le petit tour de qui je suis.
D'horizon. Voilà. Merci Régine. Alors dites-moi, si vous deviez parler des grands moments qui ont marqué votre vie, de quoi auriez-vous envie aujourd'hui de témoigner, de dire quelques mots ?
Alors si je résume les grandes étapes de ma vie, il y en a 4 ou 5. Il y en a 2 très heureuses et puis les autres beaucoup moins. Alors la première grande étape de ma vie, ça a été la rencontre avec mon ami, avec qui je suis toujours. Notre vie n'a pas toujours été un long fleuve tranquille, mais en tous les cas, ça marque un grand tournant dans ma vie. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui a eu pour conséquence de grands bouleversements dans ma vie, ça a été l'obtention du concours du CAPES pour enseigner les arts plastiques. Alors le CAPES en soi, bon, c'est compliqué, etc. Mais je l'avais préparé et je m'attendais à être prof. C'est pas de ça que je veux parler. C'est que quand j'ai eu le CAPES, en fait, en 15 jours, j'ai appris que j'étais mutée à l'autre bout de la France. Donc, j'ai dû quitter mon appartement, mon ami, mon travail. Et ça a été un vrai déracinement. Et je me suis sentie un peu comme abandonnée. Donc, ça a été une étape difficile de ma vie, peut-être même plus difficile que ce que j'avais imaginé. Je l'ai appris quelques années plus tard. Quelques années après, il y a eu la naissance de ma fille. Et là, autre étape importante de ma vie, mais dans l'autre sens. Autant je m'étais sentie abandonnée. Je ne sais plus, je devais avoir 27 ans quand j'ai eu le CAPES, 25 peut-être. Autant quand j'ai eu ma fille, j'ai eu ce sentiment de ne plus jamais avoir être seule, donc d'avoir un lien avec quelqu'un, mais qui ne s'éteindrait jamais. Et en 2012, grand bouleversement dans ma vie, en 2012, donc j'ai 2 ans après la naissance de ma fille, j'ai appris que j'avais un cancer du sein. Bon là, évidemment, tout s'écroule. Et puis on reconstruit après, puis ça se passe. Et 4 ans après, une nouvelle étape. Et cette fois, je dirais, encore plus décisive que la première. 4 ans après, j'ai eu une nouvelle attaque de la maladie, donc j'ai eu une récidive, et vraiment pas des plus simples. Donc là, ça a encore une fois transformé, mais vraiment fondamentalement ma vie et la façon d'appréhender la vie. Voilà, c'est toutes ces étapes-là qui, importantes qui font que je suis ce que je suis aujourd'hui, si je dois les résumer.
Alors, je reviendrai dans quelques instants sur ces deux cancers qui ont marqué votre vie et qui effectivement sont souvent des éléments qui transforment profondément le cours d'une existence et puis aussi la personne que l'on est. Mais avant ça, j'ai envie de vous poser une petite question sympathique et coquine sur les origines de votre talent, sur l'artiste que vous êtes devenu. Est-ce que vous peignez déjà toute petite? Est-ce que vous êtes tombée dedans? Comment ça s'est passé en fait, voilà, cet amour de l'art et de la peinture? Racontez-nous.
Alors, je dirais plutôt qu'en fait, je suis née avec. Alors, je regrette de ne pas avoir une anecdote à raconter sur le déclic qui a fait que. C'est souvent une question qu'on pose aux artistes et il y a souvent des histoires formidables. Moi, j'avoue que pour le dessin, pour la peinture, j'en ai pas parce que j'ai vraiment de mémoire toujours dessiné, toujours peint. En revanche, je n'ai pas toujours eu une vraie pratique artistique, c'est-à-dire une peinture avec, je dirais, une réflexion derrière. Et là, il y a eu un vrai déclic. Sinon, j'ai toujours dessiné. Ça fait partie, j'ai envie de dire, je dessinais peut-être comme j'allais jouer, comme je m'alimentais. Enfin, c'est vraiment quelque chose, il n'est même pas envisageable de me passer.
Une vraie passion.
Oui, alors c'est même pas, j'ai du mal à appeler ça une passion parce que ce n'est pas quelque chose qui est arrivé, que j'ai développé en fait. Ou quelque chose qui est arrivé d'un coup, comme souvent les passions. Là, ça a toujours été là.
Ça fait partie de vous, ça vous habite, ça vous motive. C'est ce qui vous permet en grande partie de vous lever le matin.
Ça m'accompagne tous les jours, voilà. Et en effet, ça me permet de me lever le matin. Quoique je me lève avec plaisir hein, aujourd'hui.
Tant mieux.
Parce que parfois, quand je raconte mon histoire comme ça, les gens s'attendent à peut-être, on va en parler, à un discours peut-être pas forcément très joyeux et très optimiste, alors qu'en fait, je pense que je le suis. On en reparlera certainement plus tard.
Alors justement, on va passer au sujet qui est un petit peu moins joyeux, effectivement, celui du cancer, des cancers dans votre vie, puisqu'il y en a eu deux. Hein. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à ce sujet? Comment vous les avez traversés? Qu'est-ce qui en est ressorti? Quelles ont été les transformations liées à ces deux épreuves?
Je commence par raconter peut-être un petit peu comment ça s'est passé. Donc en 2012, première attaque de la maladie. Donc j'ai trouvé moi très de façon très anodine en posant la main sur un sein, j'ai trouvé un petit nodule. Très rapidement contact avec le médecin et enfin très rapidement j'ai eu ce diagnostic en fait de cancer du sein. J'ai eu d'abord une tumorectomie, ça allait encore, c'est-à-dire ça ne se voyait pas trop. Le résultat au niveau des seins esthétiques était plutôt acceptable. Bon, je savais déjà que certainement il y aurait une chimiothérapie après, de thérapie, enfin tout le protocole classique de soins. Ça c'est un petit peu compliqué lorsque les résultats de la tumorectomie sont arrivés. C'est-à-dire qu'en fait il y avait un deuxième foyer. Et d'ailleurs, j'insiste dessus parce que ce deuxième petit foyer, je l'ai trouvé moi-même alors qu'il n'apparaissait nulle part. Donc d'où l'intérêt de se palper, mais vraiment les seins, parce que vraiment ça peut sauver des vies. Alors, il s'est avéré que cet autre petit, vraiment minuscule nodule était également un foyer cancéreux, bon, in situ, mais cancéreux quand même. Donc là, j'ai appris qu'on allait m'enlever un sein. J'ai subi une mastectomie. Alors, c'était très dur d'entendre ça, forcément. Enfin, je pense que c'est la hantise de beaucoup de femmes de perdre un sein, de perdre les cheveux aussi. Je crois que pour moi, les cheveux, c'était pire. Voilà, donc je me suis retrouvée face à tout ça. La perte des cheveux, ça a été dramatique pour moi. J'avais toujours eu les cheveux longs jusque dans le dos et ce pendant des années. Ça a été un vrai traumatisme, vraiment. J'en ai pleuré des jours. Et les seins également. Sauf que le sein, Alors, j'ose à peine le raconter, ça, parce que ça peut sembler indécent. J'ai essayé de trouver une façon de rebondir. Et au niveau des seins, de ce sein qu'on allait m'enlever, le rebondissement, il a été assez facilement trouvé, à savoir que j'avais des seins que je n'aimais pas, mais vraiment que je n'aimais pas. J'avais une poitrine importante et qui, je ne sais pas, j'ai toujours eu l'impression qu'elle ne correspondait pas à mon identité. Voilà. Et donc, quand on m'a annoncé ça, que j'allais perdre un sein, j'ai fait la bascule dans ma tête immédiatement pour rebondir. Je me suis dit, bon, ben voilà, c'est tout. Ça va être l'occasion d'en avoir de nouveau, comme tu veux. Alors, ça peut sembler choquant à certains, mais enfin, ça a été une façon de rebondir. Et très honnêtement, ça m'a porté tout le temps des traitements, ça m'a porté après tout le temps de la reconstruction, parce que c'est très long également. Donc, j'ai fait reconstruire ce sein, symétriser l'autre, etc. C'était très long. Mais cette façon de voir les choses, ça m'a vraiment aidé à traverser toutes ces épreuves et à rebondir. Et de manière générale, alors il y a eu ça, il y a eu les cheveux, il y a eu plein d'autres choses, il y a plein de transformations qui s'effectuent dans le corps. Et puis, la première transformation, c'est qu'on ne se sent plus... je ne vais pas dire que je me sentais invincible, ça m'est arrivé, j'avais 37 ans, je savais déjà que je pouvais mourir, c'était pas le... Mais là, ça prend une vraie... ça devient une réalité, c'est que peut-être, vraiment, ça va arriver. Et on nous le dit quand même, ce cancer, on peut en guérir, mais on peut en mourir aussi. Donc ça, ça a été un choc aussi. Il y a plein de choses, en fait, qui se bousculent dans la tête quand ce diagnostic tombe. Pour ma part, il y avait deux choix. Ou voilà, subir, ou réagir, essayer de faire quelque chose. Et bon, j'avais ma petite fille qui avait 2 ans, il était absolument hors de question qu'elle me voie abattue. Donc voilà, j'ai décidé d'être actrice, on va dire, de ma guérison, et j'ai entrepris plein de choses pour essayer d'aider mon corps à aller mieux, à tenir le choc, à devenir plus fort. Et bon, semble-t-il, ça a marché, en tous les cas, un temps. Et puis, je crois que j'avais négligé aussi certains aspects. Toujours est-il qu'en 4 ans plus tard, en 2016, alors d'abord, j'en ai pas parlé de cette étape, mais j'ai perdu mon père, et ça a été très douloureux. Et 2 semaines après, j'apprends que j'ai fait une récidive. Donc, pas dans le sein cette fois, j'ai une métastase dans le foie. A priori, comme ça, le pronostic, c'est pas terrible. Dans mon malheur, j'ai eu de la chance, j'en ai eu qu'une. Elle est restée bien sagement là où elle était, mais elle était ultra mal placée. Donc, pas opérable dans un premier temps. Et là, encore une fois, les traitements sont enclenchés, traitements lourds, reperte de cheveux, re-rayons, etc. Et là, il s'est passé quand même autre chose, c'est que lorsque je suis tombée malade, la deuxième fois, j'avais un rendez-vous avec un ostéopathe. Je lui raconte donc mon histoire, je lui dis voilà, j'ai une métastase dans le foie. Et là, il me dit, bon, écoutez, ce que vous allez faire en sortant de chez moi, vous allez à la FNAC, Nature et Découverte, ou je ne sais pas quoi, et vous allez acheter le livre de Carl André sur la méditation. Voilà, et c'est la première chose que vous allez faire. Ce que j'ai fait d'ailleurs, mais en discutant avec lui après, il a pointé quelque chose du doigt que c'est vrai, j'avais complètement négligé, et j'ai essayé d'y travailler ensuite, et c'est ce qui m'a permis d'affronter cette deuxième attaque. Donc, il a pointé du doigt qu'en fait, j'étais... Alors certes, j'avais fait beaucoup d'efforts au niveau de mon hygiène de vie, l'alimentation, le sport, etc., pour conserver un corps en bonne santé, comme je disais tout à l'heure, mais par contre, j'avais complètement négligé l'aspect mental, moral... Et donc, lui, il a pointé ça du nez. Et c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, j'ai en plus porté mon attention là-dessus. Et je me suis plongée dans toutes les lectures que je pouvais faire sur cette question-là. Ça m'a permis de réagir différemment. Et là, ça m'a profondément transformée. Parce que moi, j'étais quelqu'un de... Je suis toujours stressée et anxieuse, etc. Mais j'arrive mieux à gérer. Et ça m'a permis de gérer la suite. Et la suite, heureusement, parce que la suite n'a pas été facile, en fait. Donc, j'ai eu cette métastase. Qui a été diminuée par les traitements classiques, mais pas totalement éradiquée. Et j'ai eu de la chance parce que mon oncologue, face au traitement qui n'avançait finalement pas, qui stagnait mais qui n'avançait pas, elle m'a fait rencontrer un chirurgien qui a accepté de m'opérer. C'est une opération super compliquée, mais ça a marché. Je suis là aujourd'hui. Et non seulement je suis là, mais je suis en bonne santé, en bonne forme, et je suis bien dans mon corps. J'aime mon corps aujourd'hui. Et voilà, c'est ça que j'ai envie de dire. Je ne suis pas effondrée, je suis marquée par la maladie, c'est clair, mais j'en suis sortie comme beaucoup de gens, je pense, enfin, comme pas mal de personnes, J'en suis sortie clairement plus forte. Je ne peux pas dire qu'heureusement tout ça m'est arrivé, mais enfin, aujourd'hui, je ne serais pas celle que je suis si ça ne m'était pas arrivé. Voilà.
Merci pour ce témoignage très, très émouvant et très touchant. Et j'ai envie de dire que vous avez fait preuve de beaucoup de force, de ce que j'appellerais de résilience. C'est un beau parcours de résilience. Merci. J'ai envie de vous demander maintenant, d'ailleurs suite à ces épreuves, ce sont aussi des éléments qui se transforment dans la vie, la question des valeurs, donc ce qui fait qu'on se lève le matin. Alors on en a parlé tout à l'heure, hein, quand vous disiez, ben voilà, effectivement, moi ce qui me permet entre autres de me lever le matin, d'être souriante, etc., c'est de me dire que je vais peindre ou exercer mon art ou alors l'enseigner. Mais les valeurs, on est bien ici sur la question des valeurs, évoluent tout au long de la vie et d'autant plus quand on traverse des épreuves. Alors, vous diriez qu'aujourd'hui, vos valeurs phares, essentielles, sont lesquelles ?
Alors, mes valeurs fortes, elles sont toujours les mêmes, je crois, mais c'est peut-être la hiérarchie de ces valeurs qui a changé. Je crois qu'aujourd'hui, pour moi, la valeur la plus forte, c'est l'amour, mais vraiment au sens large, du terme, pas seulement le sentiment amoureux ou l'amour familial, mais l'amour de la vie, l'amour des... Ça m'aurait semblé très naïf il y a quelques années. Aujourd'hui, ça ne l'est plus. L'amour de moi, de qui je suis, de mon corps, de ce que je fais, de mes rêves, l'amour des choses qui m'entourent, au sens large du terme. Et je m'aperçois que la carence d'amour, si on peut dire ça, c'est vraiment quelque chose qui m'affecte aujourd'hui. C'est une des seules choses qui m'affecte vraiment profondément aujourd'hui. Quand je suis en conflit avec quelqu'un que j'aime, ou quand un rêve dans lequel je me suis beaucoup investie se présente pas de la bonne façon ou s'arrête ou se réalise d'ailleurs. Là, c'est des choses, ça crée des vides en moi et c'est ça qui m'affecte le plus aujourd'hui. Donc, l'amour, je dirais. Ensuite, deuxième valeur importante pour moi, c'est le travail. Très franchement, le travail goût de l'effort, je dirais. Bien sûr, je trouve ça toujours sympathique quand les choses arrivent facilement et tombent du ciel. Mais globalement, ce qui me rend vraiment heureuse, c'est d'obtenir quelque chose après avoir fourni des efforts. Et au point que parfois même, je me l'inflige, je pense, de faire des efforts pour certaines choses, simplement pour le goûter au plaisir de l'accomplir après, d'obtenir la chose ou de réussir quelque chose. Enfin, le travail, et puis globalement, mon travail est important dans ma vie. Je n'ai jamais vraiment fait de séparation entre les deux, mais du fait qu'aussi ma pratique artistique en fasse partie. Donc le travail, et pour finir, je ne sais pas si on peut parler d'une valeur, mais enfin, je le mettrai là-dedans, je dirais la responsabilité. Je suis persuadée que, j'ai vraiment envie d'y croire, que j'ai moi-même un rôle à jouer dans tout ce qui m'arrive. Voilà, j'ai envie d'être responsable de ce qui m'arrive, et ça, j'y crois beaucoup. Ça aussi, c'est une valeur qui me guide dans mes réactions, dans la façon dont j'appréhende les différents événements qui m'arrivent.
Régine, qu'est-ce qui est non négociable pour vous ?
Alors aujourd'hui, il y a une chose qui n'est absolument pas négociable, c'est tout ce qui concerne ma santé. J'en ai un peu parlé tout à l'heure, mais là, en plus de l'art, j'ai une grande passion pour tout ce qui concerne la santé et le bien-être du corps, de la tête. Et je me documente sans arrêt là-dessus et j'essaye vraiment de tout faire pour comprendre comment marche la machine corps et pour essayer de la faire fonctionner le mieux possible. Forcément, quand elle a dysfonctionné, comme ça a été mon cas à un moment, pour moi, ça me semblait évident de tout faire pour la remettre en marche, pour la rendre forte et pour que mon corps me mène le plus loin possible et en bonne forme, pas juste en bonne forme. Donc ça, c'est pas négociable. Le sport, l'alimentation, soigner mon bien-être moral par la méditation, le yoga, etc. C'est tous les jours, en fait. Parfois, j'entends dire, bon, là, je vais me reprendre en main, je ne lâche jamais. Et c'est non négociable.
C'est une bonne logique de vie, d'autant plus quand on a traversé la maladie. Alors, pour revenir à votre art, est-ce que vous pouvez nous parler de vos œuvres ? Par exemple, j'ai envie de vous demander, est-ce que vous avez toujours peint des femmes nues en rose ?
Alors, des femmes nues en rose, non. Mais des corps, oui. J'ai commencé. Alors, mon travail, en fait, c'est une immense série. Et j'ai toujours peint des corps. Ça a commencé lorsque j'étais en maîtrise. Je vous disais tout à l'heure qu'à ce moment-là, j'ai eu un déclic. Et c'est là que tout a commencé. Et j'ai pendant longtemps peint des corps non sexués, on va dire, et plutôt monstrueux. Pas du tout aussi figuratif qu'aujourd'hui. Une dizaine d'années peut-être que je peins des femmes. Ben finalement, ma démarche s'est affinée et s'est précisée. Et donc aujourd'hui, je peins des corps de femmes nues essentiellement, et exclusivement des femmes. Le rose, c'est devenu ma couleur de prédilection pour un tas de raisons. Mais non, ça n'a pas toujours été le cas.
Alors, comment ça se fait que le rose, tout à coup, s'est imposé dans votre art? En tout cas, c'est le cas dans les œuvres que j'ai pu découvrir avec grand plaisir au château de Courcelles à Montigny-lès-Metz.
Alors, ce qui est devenu de plus en plus clair au fil des années, c'est que ce qui m'intéressait dans la peinture des corps, et notamment féminin, c'était une réflexion sur la féminité. Qu'est-ce que c'est? Sur la féminité dans sa complexité, dans son ambiguïté, dans ses contradictions. Et c'est ça qui m'anime, en fait, dans ma peinture. Et le rose, alors j'ai aussi une passion pour le rouge quand même, mais le rose, plus particulièrement, dans toutes ses nuances, dans toutes ses valeurs, eh bien, me permettent, je trouve, d'évoquer de multiples aspects de la féminité, aussi bien positifs que négatifs, et bien plus que toute autre couleur. Le rose, c'est bien sûr la couleur de la féminité, c'est la couleur de la chair, une couleur qui est forte à tout point de vue. C'est ma couleur fétiche, vraiment, avec le rouge.
Bien. Alors, j'ai cru lire que... Donc là, j'ai vu beaucoup effectivement de nus exposés, hein, de femmes... nue rose, mais j'ai vu aussi quelques autoportraits. Donc, d'après ce que j'ai lu, vous êtes passé ces derniers temps plutôt à l'autoportrait. Qu'est-ce qui a amené cette évolution?
Alors, il y a plusieurs raisons, mais la première raison, alors ça va peut-être être décevant, mais la première raison, elle est pratique. En fait, je suis le seul modèle que j'avais toujours sous la main. Pendant longtemps, j'ai pillé Instagram et la presse féminine ou masculine même. J'ai emprunté aussi à l'histoire de l'art des modèles. Au bout d'un moment, j'ai eu le sentiment que j'avais un peu fait le tour et comme j'avais envie d'approfondir la question des postures, etc., que je n'avais pas de modèle, d'autres modèles sous la main, c'est vrai que je me suis dirigée vers moi-même. Ça me permettait de calculer, de travailler plus la question des postures et d'affiner les détails, etc., puisque là, je peux prendre tout ce que je veux en photo. Donc, ça vient à côté pratique. Après, j'imagine bien aussi que quand on réfléchit sur la question de la féminité et qu'il nous arrive une telle épreuve qui touche directement la féminité, qui la remet en question, eh bien, forcément, mon propre corps est devenu une préoccupation centrale et vraiment envahissante. Et je pense que c'est aussi une des raisons qui font que je me suis tournée vers l'autoportrait. C'était une manière aussi d'analyser la féminité en général à travers la mienne ou l'image de la femme en général à travers la mienne en particulier. Comme avant, j'analysais finalement peut-être j'interrogeais mon image à travers celle d'autres femmes. Donc, c'est un aller-retour. Je suis pas sûre que j'y reste encore indéfiniment ou définitivement à l'autoportrait, mais en tous les cas, ça me permet des pauses que je ne peux pas trouver ailleurs, en fait.
Alors, est-ce que vous diriez aujourd'hui que vous avez réussi ce qui vous tenait à cœur?
Dans la mesure où, comme je le disais au début de cet entretien, pour moi, il était clair que dans ma vie professionnelle, je voulais être dans l'art. Je ne savais pas exactement quoi, mais être dans l'art. Et bien comme aujourd'hui j'y suis de ce côté, sur ce plan-là, oui, je me dis que j'ai réussi. Pas forcément, je suis peut-être pas forcément allée au bout de ce que j'aurais voulu, mais je suis épanouie et contente de là où je suis arrivée.
Alors, qu'est-ce que vous avez encore envie d'accomplir aujourd'hui, Régine Thil?
Eh bien, depuis quelques années, j'essaye d'accorder plus d'importance à ma pratique artistique, de la diffuser. D'y mettre plus d'énergie pour la promouvoir tout simplement. Et j'aimerais bien que pousser ça un petit peu, c'est-à-dire que pendant longtemps quand même, c'est mon métier de prof qui a pris le dessus en termes de temps par rapport à ma pratique artistique et je mettais de l'énergie uniquement dans la pratique, pas dans la diffusion. là, j'ai plein de choses à accomplir encore. J'en suis bien consciente. C'est quelque chose que j'ai complètement négligé et du coup, ou que je n'ai pas osé faire. Il y a plusieurs possibilités. Mais ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur, oui, de continuer à d'exposer et puis de continuer à peindre, tout simplement.
Ça sera pour le plus grand plaisir des personnes comme moi qui viennent voir vos expositions. Maintenant, si vous deviez nous donner 3 mots qui vous définissent.
Je vais dire en premier lieu, puisque j'ai posé la question à ma fille hier, c'est l'acharnement. Alors, c'est un peu cliché, mais ma fille me disait hier, ce qui te caractérise, c'est que tu lâches jamais rien. Et alors, c'est pas forcément positif. Ça peut aussi être négatif. La plupart du temps, quand même, on comprend bien que ça l'est parce que la persévérance, ça permet d'accomplir des choses. Mais ça peut être aussi de l'entêtement. Et ça, c'est vraiment, je pense, quelque chose qui me caractérise. L'optimisme aussi. Et encore une fois, si c'est un terme un peu cliché, je dirais que je suis optimiste presque à en devenir naïve parfois. C'est-à-dire à croire que tout est beau, tout est possible. Là où ça n'est pas toujours.
La vie en rose.
La vie en rose, mais très bien. Exactement. Donc, c'est très cohérent. Je crois que ces deux mots-là me caractérisent. Alors, j'en ai un troisième. Est-ce que j'en ai un troisième? Si, le troisième, peut-être, ce serait le rêve. Je suis ultra rêveuse. Je reviens toujours à ma fille parce qu'elle me renvoie quand même beaucoup de choses sur moi, mais elle me dit souvent, maman, là, tu es encore en train de parler avec quelqu'un dans ta tête. Et en effet, je suis très souvent dans mon monde. En fait, c'est à la fois un refuge, à la fois un endroit où je peux visualiser ce dont j'ai envie, en fait. Donc, j'y retourne souvent. Et c'est vrai que je suis souvent dans mes pensées, on va dire. Donc oui, ces trois mots-là.
Merci Régine. Alors pour finir cet entretien, est-ce que vous avez envie de rajouter quelque chose, soit vous concernant ou à l'attention des personnes qui vont écouter cet épisode de ce podcast?
Alors plutôt à l'attention des personnes qui vont l'écouter. C'est quelque chose qu'on dit, qu'on entend souvent, qui peut peut-être agacer, mais réellement, et qui peut peut-être être difficile à entendre dans certaines phases de la maladie, puisque là, le message, il concerne la maladie. Mais réellement, je crois qu'on peut surmonter ça si on accepte de rebondir sur cette épreuve, de s'en servir comme un levier. Et si on peut aussi, je sais pas si tout le monde a la capacité forcément de le faire tout de suite, mais je pense que réellement, ça peut devenir... On peut transformer ça en quelque chose de positif. Alors, ça ne devient pas tout rose du jour au lendemain, évidemment, c'est un long travail, mais c'est possible. L'issue, alors on sait qu'elle peut être très négative, évidemment, mais elle peut être positive. On peut en tirer quelque chose de bien, de beau, d'enrichissant et de positif.
Oui, rebondir. Transformer l'épreuve et... justement, retirer une leçon pour vivre encore mieux et avec plus d'intensité après.
En tous les cas, pour moi, c'était la seule manière de réagir. Il n'y en avait pas d'autre possible. Donc voilà, c'est possible.
D'accord. Merci beaucoup. C'était vraiment un plaisir de vous écouter, Régine Thil. Je vous dis à bientôt et je vais mettre en lien dans le descriptif de cet épisode toutes les coordonnées qui vous concernent pour que les personnes qui écoutent puissent voir vos œuvres, que ce soit sur Instagram, sur Facebook. Vous avez sans doute un site web, j'imagine aussi.
J'en ai eu un, puis j'ai arrêté de l'alimenter parce que les réseaux sociaux ont vraiment pris le dessus. C'est beaucoup plus pratique, oui, et beaucoup plus visible, en fait. Donc, je suis surtout active sur mon compte Instagram, en fait.
D'accord, très bien. Donc, je mettrai le lien. Et une prochaine exposition en prévision?
Rien de très établi, mais peut-être à Reims, dans une librairie, un petit projet, oui.
D'accord. Bon, mais écoutez, en tout cas, nous tiendrons informés pour voir ça avec grand plaisir. Merci encore.
Merci à vous de m'avoir reçu sur votre podcast et à bientôt.
À bientôt.
Je t'invite à découvrir le coaching de résilience, mes accompagnements et les prochains épisodes de Booste ta résilience sur mon site web sgresilience.eu. Merci d'avoir écouté cet épisode et surtout n'hésite pas à liker, partager, commenter sur Apple Podcasts et Spotify parce que booster ton quotidien et ton énergie, c'est bon pour le moral. À bientôt !